France Inter.
Frédéric Becbédé, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
Pour savoir ce que je vais écrire.
Pour qui écrivez-vous ?
Pour mon père, mais il n'est plus là et il n'a jamais lu mes livres.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
J'ai publié un livre qui s'appelait « L'égoïste romantique ». C'est pas de moi, c'est de Scott Fitzgerald, mais je me l'approprie volontiers.
Ça vous va bien. Une qualité indispensable pour écrire ?
L'obstination.
Un défaut indispensable pour écrire ?
L'obstination.
Auteur, romancier ou écrivain ?
Les trois sont ridicules, mais je prends écrivain quand même.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Bienvenue dans Etc. Cette semaine, une émission consacrée à la famille avec des spécialistes. À commencer par Frédéric Becbédé pour son nouveau roman publié chez Grasset, Un homme seul. L'homme seul, c'est le père de l'écrivain. Et ce roman, c'est la rencontre posthume d'un père qui n'a jamais su être père et d'un fils perpétuellement en fuite. Des retrouvailles touchantes et parfois drôles entre deux absences, deux mélancolies, deux solitudes aussi. J'aurai le plaisir de recevoir également la romancière Blandine Rinkel. De famille et de relations au père, il était déjà question dans son dernier roman, Vers la violence, paru en 2023. Cette fois, elle publie une enquête, La faille, chez Stock. La faille, c'est le mot qui apparaît quand elle écrit à la main le mot famille, la lettre M disparaît. Cette faille, elle est protéiforme, elle illustre à la fois le manque de la famille quand on n'en a pas, mais aussi la faille que constitue la famille elle-même quand elle nous fragilise et qu'on en vient à ne plus pouvoir penser en dehors d'elle. C'est passionnant parce que ce livre est en creux une ode à la liberté et à l'art de désobéir, avec la littérature en miroir. Sur le rôle et l'amour des livres, on recevra justement en fin d'émission un primo-romancier qui a déjà tout d'un grand écrivain, Benjamin Stock. Dans son roman satirique Marc aux éditions Ruff Romantin, il pose notamment la question de la vengeance. N'écrit-on pas toujours pour se venger de sa famille ou d'autre chose ? Ce texte, Frédéric Becbédé l'aime beaucoup. Il lui a même donné le prix de Flore. On en parle ensemble tout à l'heure. Vous écoutez Etc. sur la famille et le pouvoir des mots. C'est parti.
Etc.
Blandine Rinkel, bonjour.
Bonjour.
Et rebonjour, Frédéric Becbédé.
Bonjour, Lilia.
Frédéric Becbédé, je crois savoir que vous aimez beaucoup le travail de Blandine Rinkel.
Oui, c'est vrai. J'ai lu les quatre livres. Je l'admire, je la vois se déployer, et le dernier franchit un cap, puisque pour la première fois, elle se confie sans se cacher derrière des personnages. Je pense que La faille est la suite logique de Vers la violence. Et même si on prend tous les titres de vos livres, c'est assez marrant, parce que tous les titres définissent un peu votre méthode. L'abandon des prétentions, aidez-moi, le non-secret des choses... C'est une définition de l'écriture, le non-secret des choses.
Ouais,
vers la violence, elle y va de plus en plus. Mmh. Et puis, la faille. Mais c'est assez paradoxal, parce que vous dites, je veux quitter ma famille, ne pas parler de... Enfin, voilà, vous dites à un moment, l'extérieur est une promesse. Je veux toujours partir et pas être enfermé dans cette prison. Et en même temps, vous ne parlez que de la famille. Peut-être
ah oui, mais paradoxal. On ne décide pas toujours ce qui nous agit et nos désirs. Enfin, c'est un livre aussi qui rappelle ça, que celles et ceux qui ne peuvent pas, ne veulent pas, n'arrivent pas à appartenir à leur famille ou à un clan, ou ne le décident pas toujours.
Et vous disiez que
c'est ça la faille, c'est pas la volonté de puissance, c'est la faille.
La faille, c'est le point final d'une phrase, ce que vous disiez.
Oui, bah, je dirais oui, que c'est comme si j'avais commencé une phrase avec l'abandon des prétentions, mais je ne savais pas que je commençais une phrase qui allait durer 3 ou 4
plusieurs livres.
Et oui, mais j'ai eu cette sensation une fois que le texte de La faille était fini, je me suis dit, tiens, là c'est un point peut-être final d'une phrase qui a commencé depuis 2017 en fait.
Et pourquoi ? Qu'est-ce que La faille a apporté de différent ? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous n'aviez pas compris avant La faille ?
Je crois que c'est s'autoriser à dire qu'on n'en est pas. Je ne m'autorisais pas, j'essayais quand même de négocier encore. Et d'une certaine manière, la colère ou la violence dont il y avait des traces dans Vers la violence était encore une forme de négociation ou de lien qu'on continue à maintenir. Et là, il y a peut-être quelque chose de plus
radical.
Peut-être. Et en même temps, c'est paradoxal, de plus radical et de plus doux, de plus tendre, peut-être.
Quand on vous dit famille, quelle est la première image qui surgit chez vous ?
J'ai vu un sapin de Noël.
et vous, Frédéric ?
Je pense à... Alors, ça va paraître pompeux, mais je pense à Famille, je vous hais, d'André Gide. 1897 dans les nourritures terrestres. Et donc, ça fait 120 ans qu'on se pose cette question, de cet amour et de cette haine, de cet enracinement et de cette émancipation indispensable.
Vous penchez de quel côté ?
Non, mais moi, je suis très empirique. J'ai écrit ce livre après la mort de mon père, parce que j'aurais été complètement incapable d'en parler avant. Et j'ai l'impression que j'ai fait sa connaissance, j'ai rencontré mon père après sa mort.
Vous avez de nombreux points communs, tous les deux. Et le premier, c'est une tendresse particulière pour l'enfance. C'est pour ça que j'ai tiqué quand vous avez parlé de sapin de Noël. Frédéric Becbédé, vous écrivez à un moment « Quand je rencontre un homme ou une femme, j'imagine tout de suite l'enfant en eux. Rien d'autre ne m'intéresse pour connaître quelqu'un. Les adultes sont répétitifs et moins originaux que les êtres qui débutent dans la vie. Mon père est un enfant abandonné dans un internat. Moi, je suis un fils de divorcé des 70s. Tout ce qui est arrivé après est accessoire. » Ce passage m'a bouleversée et j'ai pensé à vous, Blandine Rinkel. La famille, c'est d'abord l'enfance.
Oui,
vous
j'aime
en parler beaucoup dans votre livre.
Bah parce que on est tous constitués de ça, on n'en sort jamais, quoi. On sort jamais de l'enfant qu'on a été. Enfin, c'est un cliché de le dire. Tous les écrivains le disent. L'enfance comme manière de ressasser une forme de nostalgie, ça ne me parle pas du tout. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a de plus enfantin. Enfin, en ça, je rejoins la phrase de Frédéric Becbédé. Quand je rencontre quelqu'un, c'est vrai que je traque ce qui reste, s'il y a un reste d'enfant, s'il reste quelque chose d'enfantin, mais c'est vrai au présent, pas comme un regret. J'ai jamais eu ce truc, moi, de l'enfant. Enfin,
d'ailleurs, j'ai pas posé la question de la nostalgie. Hein.
Non,
j'ai posé la question de l'enfance.
Mais souvent, quand on parle de...
Enfin, on associe oui, on
ça
l'associe à l'enfant.
Assez vite. Mais ouais. Oui, y a très peu de relations qui me... par exemple, qui me permettent d'être enfantine. Il faut quand même une forme de confiance, il faut... Et ces relations-là, je les chéris plus que tout, quoi.
Frédéric Becbédé, votre enfance a été marquée par le divorce de vos parents. Vous en avez voulu à qui ? À votre père, à votre mère, à qui ?
Mon père a disparu à un moment, il s'est absenté, et donc j'ai cru que c'était lui le salaud. Et c'est seulement à l'âge de 40 ans que j'ai compris que c'était ma mère qui l'avait quitté. Ça n'a pas une grande importance et c'est très banal. Mais oui, il y a eu un malentendu, un silence. À l'époque, c'était nouveau le divorce, donc on n'en parlait pas aux enfants, on n'expliquait pas pourquoi tout d'un coup papa était plus là. C'était parce qu'il était en voyage d'affaires, si vous voulez. Il était en voyage d'affaires qui a duré quelques années. Donc je reproche rien à mes parents. Je constate que la société à ce moment-là a complètement basculé, que le divorce est devenu la norme. On devait improviser avec ça. C'est une génération, les boomers, qui se sont libérés de tous les carcans, et notamment de leurs propres enfants. En fait, c'était eux les enfants, et nous, on était peut-être des mini-adultes. Mais j'aime beaucoup comment Blandine parle du sapin de Noël, parce que moi aussi, ça m'angoissait. En fait, j'ai toujours trouvé que les réunions de famille étaient pénibles, que d'ailleurs tout le monde se balance des horreurs à la figure, que la famille c'est cruel, c'est des gens qui vous connaissent trop bien, qui vous connaissent depuis toujours, on peut pas...
Trop bien ou trop peu, aussi.
Oui, aussi. Je suis d'accord avec André Gide, en fait, moi. Dès L'amour dure 3 ans, j'avais vraiment été très violent sur le mariage, sur la famille, et moi, c'est ça, ce livre, probablement j'ai fui pendant 15 livres, et puis maintenant je me retrouve être obligé de dire d'où je viens.
Pour vous, Frédéric, c'était l'absence du père était silencieuse.
Oui, et de toute façon, moi je viens d'un milieu où on est pudique, on est très secret, où il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est la bourgeoisie, non, la bourgeoisie, mais en enquêtant, j'ai découvert beaucoup de choses dans ce livre, mais on ne se dit pas tellement les choses. Et mon père, par exemple, ses parents lui ont jamais dit « je t'aime », ils ne l'ont jamais embrassé. Donc c'est difficile à comprendre.
Et vous avez ressenti aussi ce deuil de l'idée de famille ?
Bah, de toute façon, moi aussi j'ai grandi avec une mère qui éduquait ses deux fils et qui, voilà, c'était la même configuration de la mère seule qui élève ses enfants. Et je pense que c'est aujourd'hui très courant. Donc j'ai pas ce modèle de la famille nucléaire comme sur les photos, les photos de point de vue.
Oui, c'est ça. Photos de photographes américains. Frédéric Becbédé, Blandine Rinkel, vous restez avec nous. Quand on revient, on entrera plus en détail dans vos livres et on s'intéressera notamment à l'art de la fugue, qui peut faire souffrir autant qu'il peut libérer. Mais d'abord, on écoute Eddie de Préto et Juliette Armanet, Eau de vie.
sais que tu as chaud, que l'été fut crescendo. Je te laisse mon colis pour soigner tes yeux sans eau. Nourrir ce cœur aride d'un petit peu de salive et d'un zeste de mélo.
Je te promets sans colère, tu me verras plus retenir tous les fluides que j'ai en stock, les larmes de calèche. Je te crache mes efforts qui s'écoulent tels des saphirs sur ton corps encore amer.
Quand je t'embrasse, je sens la tendresse qui s'étale et qui se crache sur les effluves lascives de nos salives jusqu'en est dégoûté. Quand je t'embrasse, je sens le business de nos fluides qui s'éclaboussent sur le doux contour de nos bouches toujours mouillées.
Je sens la tendresse. Sentir le désir de nos odeurs si humides. Je t'échange avec plaisir la bave perdue de mon cœur, tout le liquide et la sueur comme retenu pendant des heures que j'ai nommé élixir.
Quand je t'embrasse, je sens la tendresse qui s'étale et qui se crache sur les effluves lascives de nos salives jusqu'en est dégoûté. Quand je t'embrasse, le business de nos fluides qui s'éclaboussent sur le doux contour de nos bouches toujours. Quand je t'embrasse, je sens la tendresse qui s'étale et qui se crache sur les effluves lascives de nos salives jusqu'en être dégoûté. Quand je t'embarque, je sens le business de nos fluides qui s'éclaboussent sur le doux contour de nos bouches toujours mouillées.
Vous écoutez Etc. et nous sommes toujours avec deux romanciers rebelles, Blandine Rinkel et Frédéric Begbédé.
Ouais,
les rebelles. Blandine Rinkel, vous pensez qu'il faut rompre avec sa famille pour être vraiment libre ?
Non.
pas nécessairement.
Non, pas nécessairement. Moi, je prône rien. C'est pas... Le livre que j'ai écrit n'est absolument pas un programme. J'essaye de rendre compte de certaines existences. En fait, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu d'autre choix que celui de rompre. Ou qui ont fait ce choix-là parce qu'ils se sentaient acculés par plein de raisons. Et c'est, je pars de ça, je pars d'un état de fait. C'est absolument pas...
Et qu'est-ce que cette rupture vous a apporté à vous ?
J'ai composé avec. Je sais pas, je pourrais pas le dire comme elle m'a apporté. J'en ferai pas, encore une fois, ça semblerait...
Oui,
voilà, j'en ferai pas un étendard, mais... Je dirais que j'ai composé avec, que j'ai trouvé quand même vraiment de la joie dans l'idée de s'arracher. J'ai trouvé une manière de composer avec l'incertitude, qui aide quand même à vivre. C'est-à-dire que je vis assez bien avec le trouble, je crois. Je vis assez bien avec l'incertitude. Quand je sais pas bien ce qui se passera, j'en sais rien, dans les mois qui viennent, ou quand, je sais pas, je vais prendre un truc plus petit, mais quand il y a un malaise dans une conversation... Eh ben,
ça vous dérange
je
pas.
Ne me sens pas paralysée par ça, parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà tellement senti, vécu, je me suis habituée à ce qu'il y ait des conflits qui ne se règlent pas, que je me dis allons-y, tant qu'il y a un dialogue, c'est super, allons-y. Donc j'ai l'impression, oui, je vis bien avec l'incertitude.
Et qu'est-ce que cette rupture vous a coûté, à l'inverse ?
Forme d'insouciance assez tôt, je dirais. Je préférerais être un peu plus... Oui, un peu plus insouciante, et en même temps, j'écrirais sans doute pas.
Frédéric Begbédé.
Bon, là, j'ai l'impression que Blandine réfléchit beaucoup plus que moi. Et moi, je pense que pendant très longtemps, j'ai simplement fui ou voulu ressembler à mon père, accepter un certain mode de vie complètement frénétique, hédoniste, consumériste et tout ça, tout en le critiquant.
Il venait d'où ce mode de vie hédoniste, justement ?
Ben, je pense que c'était un modèle qui vient de sûrement du modèle paternel. Mon père était un grand jet-setter, un playboy qui voyageait énormément, qui a séduit beaucoup de femmes, qui était très dépensier. Il a fait fortune, il a tout claqué. Et il avait des voitures de sport et tout ça. C'est vraiment la caricature de l'homme des années 60, 70.
Mais vous l'idéalisiez ?
Oui, bien sûr. Je pense que j'ai voulu l'imiter, mais en même temps, tout en critiquant ça et en critiquant la société de consommation. Alors, j'étais
tiraillé,
très, très, très contradictoire. Et peut-être que c'est très bien, et peut-être que c'est ça qui faisait ma richesse. Je pouvais décrire ce mode de vie tout en l'exécrant et tout en lui obéissant. Mais à un moment, voilà, j'étais contraint par sa mort et par la vie à essayer d'analyser un peu plus ce modèle-là de masculinité, d'essayer d'être un petit peu, de survivre tout simplement. Et puis, ça a donné ce livre.
Vous écrivez au sujet de votre père, « Jamais je n'aurais osé écrire ce livre de son vivant », vous l'avez dit tout à l'heure. Je me suis demandé pourquoi, étant donné qu'il ne lisait pas vos livres.
Oui, alors une collègue de bureau m'a écrit une lettre en me disant que il parlait de mes livres et qu'en fait il me le disait pas à moi mais il parlait de mes livres au travail à ses confrères, consoeurs. Donc j'étais heureux d'apprendre après sa mort qu'il était quand même un peu fier. Non, je dis que j'écrivais pour lui parce que c'était quelqu'un de très littéraire, très cultivé, qui parlait grec ancien, latin, comme il était, je pense que c'était peut-être son rêve d'être écrivain, qu'il n'a pas osé. Il avait été très maltraité dans son enfance, il n'avait pas assez confiance en lui à cause de ce qui lui est arrivé à 8 ans quand on l'a mis dans un internat disciplinaire très dur, très réfrigéré. Mmh. Et donc je pense pas qu'il ait il aurait jamais eu l'audace de publier. Peut-être qu'on est sur Terre pour réaliser les rêves de ses parents. Peut-être que votre maman voulait être chanteuse, je ne sais pas.
Blandine, écrire, je pense.
Mmh. Oui.
Oui, ma mère, elle a grandi dans une famille paysanne très, très pauvre, et c'est la première à avoir fait des études, même dans tout son village. Donc il y a un truc où elle m'a appris à lire très très tôt, ça c'est vrai. Et c'est vrai que dans l'enfance, elle me disait toujours, elle me rappelait que tout coûte dans la vie, que je veux dire économiquement, hein, que les choses coûtent de l'argent, qu'il faut faire attention, qu'il faut économiser, etc. Mais qu'il y avait un endroit, enfin presque un lieu, quoi, auquel on avait accès tout le temps. Et elle me disait ça, tu t'en préoccupes pas, c'était les livres. Donc elle m'emmenait tout le temps à la médiathèque. J'avais les trois cartes de mes parents, enfin j'avais les deux cartes de mes parents et la mienne, donc je pouvais prendre jusqu'à 36 livres par semaine, je me souviens du chiffre, du nombre. Et donc.
Vous aimez bien les nombres ?
J'aime bien les nombres, c'est vrai.
Et les listes.
C'est vrai. Parce que je pense que comme quand même j'écris à partir de matériaux très fragiles, il y a beaucoup de doutes, etc., ça me donne une forme d'impression de maîtrise.
De structure.
Ouais. De petites structures, ouais. Je me dis, tiens, je fais 1, 2, on va essayer de mettre un peu en ordre quand même, parce que sinon, c'est trop instable.
C'est ça, vous êtes extrêmement structuré.
Ouais.
Donc il n'y a pas le cadre familial. On parlera du mot cadre tout
non,
à l'heure.
Non, la rigueur. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'aime la rigueur et puis j'aime les efforts, ça va avec. Parce que, oui, c'est parce que sinon, tout s'écroule, quoi. Il faut une colonne vertébrale quand même bien tenue si toute la matière est tremblante à côté.
Frédéric Becbédé, la vie de votre père, vous en avez parlé tout à l'heure, est aussi une tragédie. Après une ascension brillante, il est surnommé le pape des chasseurs de têtes, il multiplie les conquêtes, les mystères, puis tout s'effondre. Qu'est-ce que ce parcours a laissé comme trace chez vous ?
Je pense que c'est un personnage de roman. J'ai écrit ce livre pour qu'il ait enfin son roman, parce que c'est vrai que c'est une ascension incroyable. Il a ouvert des bureaux de ce cabinet Spencer Stuart dans une trentaine de pays, et c'était vraiment un mode de vie qui était l'idéal masculin de l'époque, hein, de passer son temps dans des aéroports, dans des grands hôtels. Il a réalisé une utopie de l'époque qui semble aujourd'hui absurde et qui nous a mené à notre perte. Mais peu importe. Au moins, Il a vécu cette vie-là, il se prenait sans doute un peu pour James Bond. Il n'est pas impossible qu'il ait d'ailleurs travaillé pour la CIA, c'est pas impossible. Mais du coup, je ne sais plus quelle était la question.
Mais vous avez peur de la perte ?
Je ne sais pas, parce qu'en fait, en même temps, je trouve que la littérature sert à capter des choses provisoires, et donc je crois qu'il y a une très grande beauté dans la perte, et les livres que je préfère sont des livres dont les personnages sont égarés. Je trouve que c'est féerique, tout ce qui est loin, tout ce qui est flou. J'adore Modiano, j'aime beaucoup Fitzgerald. Donc, mon panthéon personnel, c'est que des paumés, hein, en fait.
Vous diriez que vous êtes nostalgique ?
Oui, très. Oui, très. Pas spécialement de l'enfance, hein. J'aime bien me souvenir du passé. J'aime bien penser à des fêtes où j'ai été il y a 30 ans. Et je pense que, de toute façon, c'est l'avantage d'être vieux. C'est que maintenant, je peux me réfugier dans mes souvenirs.
Et Blandine, je peux vous poser une question un peu indiscrète. Quel est votre rapport à la mort ?
Bam ! Prends ça dans les dents !
La mienne ou celle des autres ?
La vôtre ?
J'ai longtemps été convaincue que je ne vivrais pas longtemps. Et c'est en train de changer. C'est-à-dire que je suis en train de... Mon espérance de vie est en train de gagner. Non, mais je pense que comme la mort, c'est une phrase au début du livre, je dis que la mort a plané tôt sur mon enfance. C'est-à-dire que le concept de mort, l'idée de mort, je crois l'avoir vite compris. Je veux dire, pris avec moi. C'est ça l'étymologie de comprendre. Donc c'était présent assez tôt. Ça me faisait pas peur, par exemple, qu'on parle des morts, là où j'avais l'impression que quand le grand-parent de quelqu'un mourait, c'était une sorte de drame absolu. Et moi, je regardais ça avec étonnement, parce que ça me paraissait très évident que les gens meurent,
qu'on allait tous mourir.
Qu'il y a des fantômes partout. Mais c'était pas forcément une bonne chose non plus, parce que ça, je pense que j'avais quand même une toile de fond très... une sorte de désespoir quand même... un peu trop précoce, je dirais, et qu'en fait, il est plutôt en train de... Je dirais que j'ai appris vraiment à aimer la vie ensuite, quoi. Non, et à aimer la vie et à me dire, oui, bien sûr, enfin, bien sûr que les choses meurent, mais j'écoutais la question sur la nostalgie, et moi, je dirais que je suis nostalgique du présent, très vite. Même là, on est en train de parler, je vois vite comment immédiatement les choses meurent, quoi. Tout ce qu'on est en train de vivre. Et donc, ça rend tout intense, et ça rend tout, ça rend tout à la fois grave et léger. Enfin,
ça veut pas dire aussi que vous avez toujours un petit mouvement de recul par rapport aux choses. Pour être nostalgique du présent, il faut être aussi un peu dans l'observation du présent.
Bah, y a un terme dont je parle dans le livre, c'est le terme « Hasret » qu'emploie la réalisatrice d'After Sun, Charlotte Wells. Et c'est un terme qui dit, je crois que c'est se souvenir des choses ou être en présence, avec, je ne sais plus si c'est se souvenir ou être en présence de quelqu'un avec une légère distance, quoi. Quelque chose qui tord très légèrement le souvenir ou la présence de l'autre. Et oui, j'ai l'impression que, en tous les cas, tous les moments en famille, je les vis avec ce léger hasret, et en fait, même pas qu'en famille, quoi.
Mais j'ai l'impression que Frédéric Becbédé aussi.
Mais je pense que tous les écrivains sont des handicapés. Il faut bien comprendre que c'est une chose pas naturelle.
Bah là, on y arrive.
Non, c'est une chose pas naturelle. C'est une maladie d'écrire qui consiste à sortir de son corps et regarder chaque chose qu'on vit comme quelque chose d'étonnant ou d'absurde. Et vous voyez, se balader... Moi, comme j'ai quitté Paris il y a presque 10 ans, je me promène dans Paris, je vois toutes ces voitures, ce bruit, et je regarde ça comme si c'était des effets spéciaux, un monde bizarre. Et ce décalage-là, c'est la littérature. Je pense que c'est ça, la littérature.
Écrire empêche de vivre ?
Non, mais ça consiste... C'est un refus de vivre. On est à côté, en train de... Sans juger, mais en train de regarder les choses comme quelque chose de très spectaculaire, de très bizarre ou très, très étonnant. En fait, on cherche un sens à ce qui n'en a pas. C'est ça, la littérature. Non, c'est essayer de connecter des hasards, des destins... De chercher à organiser les choses alors que c'est le bordel.
C'est pour ça que je parlais de la structure tout à l'heure. Vous êtes d'accord, Blandine ?
Ah oui, 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 on invente, mais c'est très consolateur. Enfin, moi, je dirais que c'est écrire, je ne sais pas si c'est un refus de vivre, parce que c'est aussi un... L'idée, enfin moi, quand j'ai compris que la fiction était une arme, la fiction, mais quand je veux dire la fiction, c'est l'imagination, c'est la possibilité de mettre en récit, c'est ça que je veux dire. La possibilité de mettre en récit était une arme que j'avais à portée de main, c'est-à-dire que je n'étais pas fatalement asphyxiée ou assommée par les autres récits, ceux qui me préexistent, et les récits notamment familiaux qui nous préexistent, mais qu'en fait, on peut raconter les choses, on peut se réemparer de la langue.
Et... C'est une arme de contrôle, l'écriture ?
Non, parce que moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est justement de réouvrir, des possibles, des creux. Non, c'est de réouvrir quelque chose. Donc je dirais que c'est au contraire de recréer un peu de désordre là où on croyait avoir bien rangé la question, quoi.
Blandine Rinkel, Frédéric Becbédé, dans quelques instants, on entrera dans vos ateliers d'écriture. On a déjà bien commencé, car oui, la littérature est aussi une porte de sortie.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant, n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie, et j'ai dû partir. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce point de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire, je reviendrai un jour un beau matin parmi vos rires.
Bienvenue dans l'émission Etc. C'était Françoise Hardy, La maison où j'ai grandi. Et nous sommes toujours avec Blandine Rinkel et Frédéric Becbédé. J'aimerais qu'on entre désormais dans vos ateliers d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, Etc. Lilia Hassen.
En vous lisant tous les deux, j'ai pensé à la fameuse phrase de Philippe Ross, quand un écrivain naît dans une famille, cette famille est foutue. Vous êtes d'accord avec cette phrase ?
J'aime beaucoup Philippe Ross de toute façon. Est-ce que cette famille est foutue ? Je pense que moi, je n'ai jamais voulu faire de règlement de compte. Et je fais lire mes manuscrits à ma famille avant la publication. Oui, oui, oui. Donc je fais lire à mon frère, je fais lire à ma mère.
Il n'y a pas de censure ?
Non. Alors, bon, mon père ne les lisait pas, donc je lui envoyais, mais voilà. Il s'en foutait. Je n'ai pas envie de faire du mal. C'est vrai qu'on a un pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure, on a un pouvoir immense, puisque c'est nous qui racontons l'histoire. Mais du coup, je fais attention à ça. D'ailleurs, quand je demande de lire, ils ne me demandent pas de couper. Donc je pense que
Donc ils vous font confiance.
Je me contrôle.
Blandine Riquel, c'est parce qu'un écrivain naît dans une famille que la famille est foutue ou c'est l'inverse ?
Oui, évidemment dire que... Enfin, en tous les cas, dans mon cas, c'est vrai que la famille était foutue.
C'est parce que la famille est foutue qu'un écrivain naît.
Mais non, mais je dis la famille était foutue, mais en plus, il y a vraiment eu de la tendresse. Il y a vraiment eu des moments de joie arrachés, il y a eu des belles choses.
Il y avait des failles.
Il y avait des failles, c'est sûr. Après, ça m'intéresse, moi, cette idée de la négociation quand on écrit. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis pas non plus dans une logique d'espèce de monstre égoïste. Enfin, je crois pas. Je pense qu'il faut... Il faut faire attention quand on écrit. En effet, on a un pouvoir, on a une responsabilité. Et je crois à la négociation. Je crois. Non, mais ça marche pas toujours. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, c'est âpre, c'est pénible à éprouver. Et en même temps, je crois que par là, on peut engager du dialogue. Enfin, en tous les cas, autour de la faille, parce que c'est mon premier texte de non-fiction, enfin, assumé comme tel, je me suis posé cette question. J'ai fait relire des passages.
À votre famille
des... Non. Et à d'autres. Non, mais à ma mère. Ma mère, je... on se connaît. On se connaît, oui. Ou on se connaît pas, je sais pas, les deux à la fois, mais elle a confiance en moi et je pense que j'ai confiance en son regard. Mais j'ai fait relire à d'autres qui étaient concernés, parce qu'il n'est pas du tout question que de moi dans ce livre. C'est un récit où je pars de quelque chose, oui, d'intime, mais je réfléchis avec énormément d'autres personnes. C'est un livre qui est vraiment en dialogue. Et il y a des personnes qui étaient concernées par le texte de près, ou parfois d'un peu moins près, mais voilà. Et on a eu des discussions.
Vous écrivez à la fin de votre livre 30 conseils, parmi lesquels apprendre à bien lire est plus long, plus ardu que bien écrire.
Alors, 30 conseils, c'est 30 conseils que je me donne à moi-même et que j'ai écrit le jour de mes
30 ans.
Oui, en tous les cas, dans mon cas, je dirais pas que j'ai un moment appris à écrire, je dirais juste que j'ai appris à lire, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, que j'ai pris un moment, j'ai commencé à prendre des notes, à essayer de parler aussi tout bêtement de ce que je lisais. Parce qu'en fait, on se rend compte quand on essaie de parler de ce qu'on lit, qu'on en est très souvent incapable, et souvent quand on est incapable, c'est quelque chose qui n'a pas été complètement métabolisé, et c'est bête, mais...
Est-ce que c'est grave ? De ne pas être capable de parler d'un livre qu'on a lu.
Non, mais quand on veut écrire, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie...
De comprendre.
D'apprendre vraiment à lire et à parler de ce qu'on lit. En tous les cas, c'est vrai que je trouve ça toujours un peu étrange, les auteurs-autrices qui disent que c'est un peu pénible pour eux de lire. Et il y en a...
Ça
m'étonne.
Aussi, ouais.
Oui, ça m'étonne. Je ne vois pas bien comment on peut s'améliorer.
Frédéric Bigbédé, notre libraire québécois Mike Viennot, a lu votre livre, justement. Mike, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc libraire à la librairie Médiapol de Montréal. Est-ce que vous recommanderiez le livre de Frédéric Bigbédé dans votre librairie ?
Oui, bien sûr, parce que...
Ah, ouf !
Oui, parce que je sens un ton personnel. Je sens en même temps que c'est peut-être la première fois où Frédéric Bigbédé s'ouvre sur lui et pas nécessairement uniquement sur les apparences. Il y a des phrases qui demeurent après la lecture, comme celle-ci. « Je n'ai pas été fichu d'être le père de mon père, mais pas plus qu'il n'a été le père de son fils, pardon. » Ou des phrases toutes simples comme « mourir met de mauvaise humeur ». on sent que vous allez dans une zone un peu moins confortable, que vous osez laisser tomber le masque. Ça vous permet d'être vous-même, toujours avec certaines réserves. Vous osez la pudeur et ça peut être rentable. Le regard attendri sur le père, vous le mentionnez dans votre roman, plusieurs auteurs l'ont fait, mais j'ai l'impression que vous parvenez à pousser un peu plus loin et parler de vous et de votre père. Peut-être des fois en vous mettant, vous, un peu à l'avant-scène, mais toujours en laissant le père très, très présent. Et puis, bien sûr, le texte, le rapport au passé, le rapport à l'amitié et l'affection également que vous éprouvez et que vous auriez voulu éprouver. Et... quelque chose d'étonnant, de réconfortant, la franchise de vos remerciements.
Oui, dans
merci beaucoup.
Dans les remerciements, vous écrivez, Frédéric Bigbédé, une phrase qui, moi aussi, m'a beaucoup touchée. Vous écrivez « J'ai écrit tous mes livres pour épater quelqu'un qui n'est plus là. Celui-ci est le premier que j'écris pour moi-même. »
Oui. Que dire sur tout ce que vous dites, c'est très aimable. Mais c'est aussi le sujet. C'est qu'est-ce qu'être un homme ? du coup, ça devient un peu plus important, et plus important que moi ou que mon père. Qui sont ces modèles? Qui sont ces hommes qui nous ont précédés? Quelle a été leur vie? C'était pas si simple de traverser la Deuxième Guerre mondiale.
Vous êtes devenu indulgent?
Oui, je crois. En tout cas, j'ai pas essayé de juger, mais de comprendre, vraiment.
Blandine Rinkel, vous écrivez pour qui, vous?
Pour des inconnus, que j'espère. Ce livre-là, vraiment, très spécifiquement, c'est-à-dire que j'ai eu la chance à des moments clés dans ma vie de tomber sur des livres qui m'ont permis d'oser certains gestes, qui m'ont permis aussi tout plus humblement de ne pas me sentir seule, de sentir qu'il y avait quelqu'un quelque part. Et je dirais que je continue ce geste-là.
Blandine Rinkel, Catherine Manger, notre libraire de Namur, la librairie Papyrus, a aimé précisément toutes les références littéraires de votre livre. Elle est avec nous. Catherine Manger, bonjour.
Oui, bonjour.
Je crois savoir que le livre de Blandine Rinkel vous a bien plu.
Oui, c'est une lecture qui m'a vraiment plu. Je m'imaginais un peu un énième livre sur la famille et les violences intrafamiliales avant de me plonger dedans. J'étais moyennement attirée par le livre et finalement j'ai été happée et j'ai dévoré ce texte. On a alterné un peu entre le récit personnel et des réflexions philosophiques, sociales, politiques qui m'ont vraiment interpellée, intéressée. J'ai trouvé ça très fin, très intelligent. Et ça donne plein de pistes de réflexion sans imposer un seul regard ou une seule manière de voir les choses. Ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé. J'ai adoré me promener avec vous dans toutes les références littéraires, cinématographiques, des choses plus anciennes comme Kafka, Virginia Woolf, etc. Ou des auteurs très contemporains, Sylvain Prudhomme, Édouard Louis, Laure Murat. Voilà, ça a été un vrai, vrai plaisir de lecture.
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Catherine? Est-ce qu'il y a un exemple?
Ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est vraiment lorsque Blandine Rinkel nous explique à quel point la fiction, les personnages des livres, les récits qu'elle lisait dans l'enfance, dans l'adolescence, l'ont en quelque sorte sauver un peu de l'enfer familial, enfin que pouvait être parfois cet environnement familial. Voilà, les livres, j'ai l'impression, ont été pour elle un échappatoire, un refuge, qui parfois ont même suscité la colère de son père. Elle raconte une énorme crise de colère lorsqu'elle arrive au petit déjeuner en lisant un livre sans lever le nez de ce livre. Et voilà, ce côté refuge de la littérature, ça me touche énormément. Ça paraît un peu bateau, un peu cliché de dire que les livres ont le pouvoir de nous sauver, mais finalement, ça me semble quand même souvent vrai. Je trouve que les livres ont le pouvoir de nous faire voyager dans le temps, dans l'espace. Ils ont la possibilité de proposer d'autres récits que notre propre existence. Et ils ont quand même pas mal de pouvoir. Et je trouve que ce livre est un bel exemple de ça.
Merci Catherine. Blandine, vous voulez réagir?
Oui, je crois que cette affaire de fiction, de livres et tout ça, c'est aussi, en ce qui concerne la famille, c'est réouvrir d'autres récits qu'un récit unique, l'hégémonie d'un modèle de vie, une forme de vie qui serait la seule souhaitable, la seule possible. Et si on n'y arrive pas, on serait à côté, largué. Et je trouve que quand on lit, quand on lit toutes sortes de choses, on découvre qu'il y a tellement de formes de vie que ça permet tout simplement de supporter sa vie, de se supporter soi, en fait, aussi. Enfin, ouais, de se dire, en fait, il y aura toujours quelque chose d'autre à essayer, quelque chose d'autre à raconter, et ça soulage de la difficulté que c'est d'être.
Et ça ouvre des possibles aussi.
Oui, puis ça ouvre des récits multiples, vraiment, contre
la norme.
Oui, enfin, je pense qu'en toile de fond, c'est ça. Moi, de toute façon, tous mes livres, la famille, c'est la matrice de ce qui nous paraît normal ou anormal. Donc, pour moi, s'échapper de la famille, c'est aussi chercher des chemins de traverse, s'échapper d'une norme qui nous est imposée très, très tôt.
D'ailleurs, vous, comme Frédéric Becbédé, avez très peur de l'enfermement. Frédéric Becbédé, c'est l'héritage de son père et de l'enfermement en pension. Et vous, vous décrivez très bien la cellule familiale. Enfin, ce mot déjà de cellule, la zonzon, la cabane, tous ces mots qui servent à dire la famille.
Sans doute que ça nous vient aussi de... J'ai l'impression qu'on a eu des pères assez proches qui, eux-mêmes, en fait, avaient cette espèce de névrose de se sentir enfermés très vite, de vouloir partir, voyager. Alors, différemment, nos pères n'étaient pas les mêmes, et je pense que c'est pas les mêmes, même sociologiquement, en termes de classe sociale. Mais quand même, il y avait cette chose en commun, et on hérite de ça, et ça veut pas forcément dire que c'est bien. Enfin, parfois, je sens que ce serait plus joyeux, plus confortable en tous les cas, de me sentir bien en fait dans un repas de groupe ou de famille. Enfin, je préférerais trouver que ça va de soi. Vraiment, je me dis, c'est une chance de ne pas sentir tout le temps cette espèce de distance, ce besoin d'ailleurs. Enfin,
il y a une chose que je voudrais dire sur Blandine Rinkel, parce que ça fait plaisir en ce moment. On fait beaucoup le procès des hommes et donc des pères de famille, mais que ce soit dans Vers la violence ou dans La faille, c'est... on sent son amour pour son père, quoi. Même oui, si c'est un type qui a l'air insupportable, il a l'air complètement schizophrène, flamboyant, un peu alcoolique, je ne sais pas. Elle le sauve tout le temps. Elle est tout le temps un peu, elle en fait un héros, quoi. Et moi, j'ai essayé de faire la même chose.
Oui, mais il y a une part de jeu. Il y a une part de jeu et d'admiration. Il y a une part de jeu et d'admiration.
Elle est toujours tendre avec lui, même quand elle est très méchante. Et ça, c'est ce que j'ai voulu faire vraiment. C'est-à-dire, j'ai voulu être, oui, par moments, je suis rancunier. Mais toujours avec un aspect féerique quand même.
Parce que les gens font ce qu'ils peuvent.
Oui.
Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on le sent ou on le sent pas. Ouais, ça, c'est pareil. C'est depuis l'enfance, quoi. J'ai ce sentiment que même quand des gens font des pires coups, il y a un espèce de truc où je me dis, mais ça veut pas dire que, voilà, encore une fois, ça veut pas dire qu'ils sont pas responsables de ce qu'ils font. Ça veut pas dire qu'on peut pas leur imputer. Mais
l'indulgence, c'est quand même le mot de l'émission. Frédéric Becbédé, Blandine Rinkel. On retrouve dans quelques instants Benjamin Stock, auteur de Marc, premier roman très remarqué cette rentrée, et le conseil de lecture de Fedra Hautmann, notre libraire suisse.
J'aime l'argent, le respect, surtout les jolies dames. Les jambes écartées comme les bras de Bellingham. 12 millions de Français qui votent RN, je trouve ça délicat. Ma nationalité m'accuse d'être polygame. Polygame. Faut de l'argent, mais plus de sagesse. Le prix de ma voiture, ça me gêne. Je vais pas me plaindre, Dieu merci, God bless. Faut plus de frères sûrs comme Dems. J'aime l'argent, le respect, la RDC, Jules Patron, le réfet. Si on regarde les faits, je me souviens de ta voix. Pas quoi tu ressembles, car à chaque fois qu'on se voit, t'as la tête baissée. T'as enchaîné les flops, ta carrière est dans l'oubli, tu flippes. Ces rappeurs manquent de technique, pas d'inspiration, ne font que des feats. J'touche ces salopes comme si j'étais chez Sixte. Sans te parole, j'esquive trois fois le 6. Suis ton mariage, j'fais croire compter le bif. Et mes ventes de disques, des néons rouges et des bleus foncés. Notre police poursuivant que les traîtres. Des millions d'impôts anticipés. T'as l'air raciste dont je finance à la retraite. J'ai le feu, j'ai le truc. J'ai ma go, j'ai des hauts. Viens, on va dans la cage. Pas pour marquer des hauts.
Bienvenue dans l'émission Etc. C'était Damso et Kalash Criminel, Limbisa Ngai. Nous sommes toujours avec Blandine Rinkel et Frédéric Becbédé.
Etc. Lilia Hassem.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Stock. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Votre livre Marc aux éditions Rue Fromentin a obtenu le prix de Fleur en novembre dernier à la quasi-unanimité. Votre roman raconte donc l'histoire de David, un jeune homme en quête de sens qui, à travers une obsession pour l'écrivain Marc Lévy, va se radicaliser, on peut dire ça?
On peut tout à fait dire ça, oui, c'est très bien résumé.
Frédéric Becbédé, vous êtes dans le jury du prix de Fleur. Pourquoi ce livre méritait-il ce prix?
C'est le meilleur premier roman de l'année. C'est un livre très drôle, très original, qui révèle un talent assez époustouflant. D'abord, il décrit, et en se foutant de la gueule des start-up, il utilise et il parodie le jargon des entreprises du net et du numérique. Et donc, c'est déjà très, pour ça,
très jouissif,
très kafkaïen. Et puis ensuite, ce personnage qui tombe amoureux d'une fille qui lit Marc Lévy, il se dit, il faut absolument que je connaisse Marc Lévy, que j'étudie tous les romans de Marc Lévy. Et puis, il est entraîné dans une sorte de secte révolutionnaire. Et on découvre que peut-être que Marc Lévy, en réalité, c'est le nouveau Karl Marx.
Elle vous est venue comment, cette idée d'obsession littéraire, Benjamin ?
À la base, c'était en observant les mouvements complotistes sur Internet, qui avaient tendance à interpréter, surinterpréter des micro-événements dans l'actualité ou dans des textes sans intérêt. Et je me dis, tiens, je vais faire la même chose, les comprends, on a besoin de grands récits. Sauf que la plupart du temps, les grands récits sont un peu d'extrême droite. Je pense à QAnon, qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, qui s'est fini par l'assaut du Capitole. Je me dis, je les comprends, moi je vais faire la même chose, mais je vais faire une conspiration qui me fait plaisir et je vais m'inventer une conspiration d'extrême gauche.
Vous avez dû relire tout Marc Lévy ?
En tout cas, je les ai tous à la maison et je les ai tous un petit peu étudiés, oui.
Vous après, aussi, vous prenez des notes quand
les
vous
premiers,
lisez.
Puis après, je passe un peu quand même à autre chose et je fais semblant de les avoir lus.
Et vous avez trouvé des vrais...
on peut faire dire ce qu'on veut à un texte. Et c'est ça un peu l'idée du roman, c'est que l'interprétation n'a pas de limite. Et que finalement, si on décide de prendre au sérieux la mort de l'auteur, hein, comme disait Roland Barthes, voilà jusqu'où ça peut nous mener. Mais je pense qu'on n'a pas raison de le faire. Non, je pense que l'auteur a envie de dire quelque chose ou envie de rien dire des fois. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire.
Il ne faut pas surinterpréter.
Il ne faut pas surinterpréter ou alors il faut savoir qu'on est en train de le faire et qu'on est en train de s'amuser.
C'est un roman sur la place de la littérature et des écrivains. Pensez-vous, comme votre personnage Youssef, qu'on donne trop d'importance aux écrivains ?
Sur leur rôle historique, politique, je pense que les écrivains se font beaucoup d'illusions sur leur propre importance, oui.
Et vous, vous en pensez quoi ?
Oui, non, je pense que la plupart des gens ne lisent pas vraiment beaucoup de livres ou alors lisent du divertissement. Non, je pense que les livres n'ont pas vraiment d'impact sur la société. Et les gens vont toujours sortir. Il y a ce dialogue au début du roman, il y a ce contre-exemple. Oui, ah, mais regarde la Bible. Ouais, enfin, la Bible, elle est écrite longtemps après que Jésus soit mort. Donc, qui a eu un impact ? Je pense que c'est Jésus, c'est pas Saint Paul.
quand je reçois des auteurs de premiers romans, j'aime bien leur demander de lire un extrait de leur livre, qu'on entende aussi la langue. Je vous propose de lire le passage sur la vision de la littérature du narrateur.
Alors c'est parti. Mais attends, je donne un peu de contexte, parce que sinon ça paraît bizarre.
Oui.
On a le personnage principal qui discute avec
David,
une copine.
Voilà, avec
David
Juliette.
Parle avec une copine qui lit « Trois amis en quête de sagesse », qui est un livre de développement personnel qui existe. David parle. Tu vois ce que je veux dire, non ? Il y a des livres écrits pour divertir, pour passer le temps, pour rien quoi. Des livres sans ambition. Mais un auteur, il doit transpirer, il doit prendre des risques. Il doit perdre un ami, sa mère, ses tripes. Juliette prend un air dégoûté. Tu parles de boucherie, là, ou quoi ? Il faut écrire en voulant changer le monde. C'est pas grave d'échouer, mais c'est grave de pas essayer. À quoi ça sert d'écrire des livres moyens ? De répéter des choses déjà dites ailleurs ? C'est juste faire du petit commerce. Faire du bruit. Il y a trop de bruit, on s'entend plus.
Il faut écrire en voulant changer le monde. Vous avez envie de changer le monde, vous ?
Oui, et du coup, j'annule complètement ce que je viens de dire avant.
C'est pour ça. Je savais où j'allais vous emmener.
Non, mais c'est vrai. Il faut. Oui, je pense qu'il faut être un peu mégalo pour écrire et se dire que ça va intéresser
les gens.
En fait,
il faut penser qu'on a de l'importance, mais pas donner trop d'importance aux autres.
Il faut se mentir à soi-même, oui.
Vous avez écouté tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission sur la famille. On sent dans votre livre une critique de la famille comme institution bourgeoise. Le narrateur se cherche une autre famille dans la communauté des lecteurs. C'est votre cas aussi ?
Alors pas du tout, non. En plus mes parents vont écouter cette émission, je leur dis bonjour. Quelque part j'ai rien à faire là, parce que je m'entends très bien avec mes parents.
C'est pour ça que vous êtes là.
Après, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, les parents qui sont décrits en vrai à la marge dans ce roman, ils ont un tout petit rôle, c'est un peu mes parents, et je me fous un peu de leur gueule, parce que c'est des boomers quoi.
Mais vous foutez de la gueule
normal,
de tout le monde.
Mais mon père est un homme de post-68, on a des relations très apaisées, on s'entend bien.
Donc, votre famille, pas de problème.
Mais par contre, je reconnais beaucoup mon grand-père quand BD décrit son père, oui.
Et vous avez beaucoup travaillé dans les entreprises que vous décrivez ?
Oui, ça c'est en partie autobiographique, ouais. Après, j'ai voulu pousser le truc au maximum. Parce que dans ce roman, en fait, on ne sait pas si le personnage travaille pour une entreprise ou une association ou pour autre chose. On ne sait pas ce qu'il est censé faire dedans, on ne sait pas ce que font les autres, on ne sait pas. Et je me suis souvent senti comme ça. Et c'est ça que j'ai essayé de retranscrire, ouais. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux gens, parce qu'en fait, beaucoup de gens se sentent comme
ça. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire.
En soirée, les gens adorent parler de ce qu'ils font. Et quand tu leur dis, mais concrètement, t'as fait quoi ce matin? Quand t'es arrivé au bureau, t'as fait quoi? Et là, les gens ne savent plus trop quoi répondre.
C'est ça, il y a plein de boulots qu'on ne comprend pas. Moi, il y a des métiers que je n'arrive pas à comprendre.
Non, mais en fait, la vérité, c'est que les gens le comprennent très bien, mais ils ne veulent pas le dire. Ils répondent à quelques emails. Mais c'est, ça, notre boulot à tous. Et puis, on est surpayé pour ça. Puis à côté,
c'est ça, c'est d'avoir des titres. Avec des noms américains.
Voilà, on a des titres évidemment, comme l'ancienne noblesse, il y a des ducs, des archiducs, etc. Mais au final, on répond tous à des emails.
En tout cas, je vous ai lu avec beaucoup de plaisir. Vous m'avez fait penser par moments à Bret Easton Ellis, on a dû déjà vous le dire plein de fois. Mais
je peux dire quelque chose sur l'idée d'écrire un roman pour changer le monde. J'ai eu ce projet au moment de 99 francs. Alors j'ai écrit ce livre en pensant que j'allais dénoncer la manipulation des masses par les agences de pub et par tout cet argent et qui pousse les gens à l'hyperconsommation, qui nous fout dans la merde. Bref. Et en fait, je ne croise depuis 20 ans que j'ai écrit ce livre que des gens qui me disent « Ah, j'ai lu 99 francs, ça m'a donné envie de bosser dans la pub. »
Ouais, c'est ça, c'est le risque. Non, mais là, je crois pas. Tous ces sigles horribles, non, on n'a pas très envie.
Mais les écoles de commerce se portent encore assez bien. Hein.
Vous avez commencé votre prochain livre ?
Non, d'ailleurs, je voudrais...
vouloir vous mettre la pression.
Le fait d'avoir obtenu le prix de Flore, ça a changé quelque chose, j'aurais pas voulu changer, c'est maintenant que je me sens complètement incapable d'écrire un autre livre. Alors qu'avant, ça m'a jamais fait peur, mais maintenant, je suis tétanisé.
Oui, mais comme vous aviez 4 manuscrits refusés avant, vous pouvez les publier maintenant.
Oui, mais j'ai commencé à écrire à 15 ans, je suis plus le même qu'à 15 ans, et j'ai pas envie de publier ce que j'avais écrit à 15 ans. Ou à 20, ou à 25, quoi.
Mais vous avez quand même encore envie
et
de
je pense qu'il faut aller de l'avant, et que c'est pas bien pour un écrivain de se raccrocher à des vieux textes. Il faut... Ah, puis j'ai changé, maintenant je suis père. j'ai envie d'aborder d'autres sujets, quoi. Même s'il y avait des choses bien dans les anciens textes que je reprendrais. Je me plagierais moi-même.
Merci Benjamin, c'est l'heure désormais du coup de cœur de la semaine. Direction la Suisse, à Saint-Ursanne, précisément, où nous retrouvons Fedra Hautmann dans la librairie café Le Vent se lève. Cette semaine, Fedra, vous nous invitez à une expédition poétique avec 3 amis qui se retrouvent chaque année, l'été seulement, là-haut dans les montagnes.
J'ai choisi de vous parler du livre Galel, premier roman de la Suissesse Fanny de Sarzon, étoile montante de la littérature romande. Ce livre est paru aux éditions Slatkin. Il a d'ailleurs reçu différents prix, dont pour nous le prestigieux prix suisse de littérature en 2023. On suit donc l'histoire de Galel et Jonas, ils sont guides de montagne, et retrouvent chaque été Paul, qui lui est gardien de cabane. L'hiver, en plaine, en bas, comme ils disent, chacun mène sa vie et ils ne se fréquentent pas, même s'ils vivent dans un périmètre assez proche. Ils attendent avec impatience de remonter pour partager ces moments si précieux. Les repas pris tous ensemble, la découpe du pain réservée à Galel qui a sa manière de faire. La montagne, elle est au centre. Elle a permis leur rencontre, créé leur amitié. On pourrait même dire qu'elle a un quatrième personnage, tout comme le silence. Mais elle a aussi blessé Galel.
Et c'est là, Fedra, que le récit prend un autre chemin.
Oui, Lilia. À cause de cette blessure, la relation entre ces 3 hommes solitaires va se transformer. Ils vont avoir envie de se voir aussi en pleine, de se soutenir et de se réconforter. Mais Galel, il vit quand même assez mal cet handicap et il reste un peu à l'écart de ses nouvelles activités communes jusqu'à ce que, et là, je laisse le lecteur découvrir la suite... Comme je le disais, la montagne, elle est au centre du livre, mais ce qui est aussi important, c'est ce métier de guide de montagne. C'est apprendre à suivre, à faire confiance, à marcher l'un derrière l'autre ensemble. Et comme l'écrit Fanny de Sarzon, ce métier, c'est marcher, c'est délier des chemins. Et j'ai envie de finir en disant que Galel, c'est celui qui encourage, c'est celui qui tombe, mais qui se relève. Et je trouve que c'est une très belle leçon de vie.
Le livre, c'est donc Galel aux éditions Slatkin. Merci Fedra et merci à tous les 3. Blandine Rinkel, Frédéric Becbédé et Benjamin Stock. C'est la fin de cette émission. On recommande La Faille, le récit très documenté, très riche, jamais pédant de Blandine Rinkel. C'est aux éditions Stock et je tiens à dire que l'écriture est d'une fluidité rare. Frédéric Becbédé, quant à lui, publie Un homme seul chez Grasset, roman qui réussit à faire naître d'une histoire intime une réflexion universelle extrêmement touchante sur la famille et la solitude. Et enfin, je recommande Marc de Benjamin Stock, Herzog pour son écriture philosophique, empreinte d'humour noir et ses dialogues excellents entre érudition et provocation. Je salue aussi les libraires qui m'ont accompagné aujourd'hui, Fedra Hotman, Catherine Manger et Mike Viennot, car je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter coproduite par les médias francophones publics. Un grand merci enfin à mon équipe, Lignor Allôme à la réalisation, Théo de Lobader à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Ethel Alzial. Merci à tous et à la semaine prochaine.